Vous écoutez RTL.
Vous avez tout sur RTL.fr. La curiosité sur RTL, c'est parti avec Thomas et avec Sidonie.
Et oui, Stéphane, avec ce week-end de Pâques, tiens, on vous propose une belle idée de balade, une visite au château de Vaux-le-Vicomte, ouvert au public depuis 50 ans tout juste. On va découvrir comment son premier propriétaire, Nicolas Fouquet, en a fait une vitrine des plus grands talents français du XVIIe siècle.
Et tout de suite sur RTL, on découvre l'homosexualité des animaux.
Les animaux et leurs amours. Rien de plus naturel que l'acte de procréation.
RTL.
Mais si ces étreintes obéissaient à un autre élan que celui de la perpétuation de l'espèce? En effet, sur notre planète, dans les savanes, les forêts, les océans, bon nombre d'animaux ont des comportements homosexuels.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Ni bizarre, ni anormal, ce phénomène est assez répandu dans la nature pour qu'on s'y intéresse de plus près.
Bienvenue sur RTL, les curieux.
Bonjour les curieux, bienvenue dans votre heure pochette surprise. Vous allez découvrir des histoires incroyables, souvent méconnues. Vous allez passer par toutes les émotions jusqu'à 15h. Bonjour Thomas, vous êtes prêt ?
Oui, je suis prêt. Bonjour Sidonie, bonjour à toutes, bonjour à tous. Notre curiosité, vous le savez, elle n'a pas de limite, pas de tabou. On se passionne souvent pour les animaux, pour leur sexualité. Aujourd'hui, on va observer que dans la nature, il n'y a pas que des hétéros.
Les animaux homo, c'est le sujet de recherche de notre invité, le thème de notre curiosité. Bonjour Fleur Dauger.
Bonjour.
Bonjour, bienvenue.
Soyez la bienvenue. Vous êtes éthologue, ça veut dire que vous étudiez le comportement des espèces animales, les animaux. Il y a nous aussi dedans, c'est ça ?
Oui, aussi. Nous aussi, nous sommes des animaux. Il ne faut pas l'oublier.
Est-ce que toutes les espèces animales sont homosexuelles, pratiquent l'homosexualité ?
Potentiellement, oui. L'homosexualité a été observée chez à peu près 1500 espèces et vraiment étudiée scientifiquement chez 500 espèces. Donc, on les a pas toutes, on n'a pas tout vu encore. Et j'aimerais bien, j'encourage les scientifiques à se pencher encore davantage sur ce sujet qui reste assez méconnu.
Pourquoi c'est un sujet méconnu ? Les recherches sont assez récentes. On observe la nature ou la sexualité des animaux que depuis une dizaine d'années ?
Ben, en fait, c'est connu depuis l'Antiquité. Déjà, Aristote en parlait, Buffon en a parlé. Donc, tout au long de l'histoire, les scientifiques l'ont rapporté de manière souvent assez anecdotique, mais c'était quand même connu. Et il y a encore un grand tabou, en fait, dans la communauté scientifique, encore aujourd'hui. Et c'est pour ça que c'est assez méconnu. Je parlais hier avec un chercheur qui s'appelle Thierry Laudet, qui a beaucoup étudié la sexualité des animaux. Mmh. Il s'est vu refuser plusieurs fois des articles sur ce sujet-là parce qu'il y a vraiment un tabou.
Alors on va, grâce à vous, casser et lutter contre ce tabou et prendre plusieurs exemples. On va observer ces animaux. Le plus connu, c'est peut-être les bonobos. Est-ce que vous pouvez nous rappeler qui sont les bonobos et peut-être aussi quelle est la fréquence ou la proportion de pratiques homosexuelles chez les bonobos?
Alors les bonobos, ce sont des primates, des grands singes. Mmh. Ce sont eux qui sont les plus proches génétiquement de l'être humain. Et donc ils sont très connus, on appelle ça une espèce hypersexuelle parce qu'ils ont beaucoup de relations sexuelles, aussi bien entre mâles qu'entre femelles, hétéros, homos, les jeunes, les moins jeunes aussi. Et donc en fait chez eux la proportion c'est pas évident à dire, ils sont tous tous potentiellement homosexuels, il y en a qui
mâle
ont des
mâle ou femelle, l'homosexualité se pratique des deux côtés,
oui,
c'est ça?
Oui oui, tout à fait.
Et est-ce que ces relations homosexuelles chez les bonobos ont une signification, jouent un rôle dans leur société?
Alors les relations sexuelles en général ont un rôle de pacification chez les bonobos, hein. On fait l'amour pas la guerre, c'est souvent ce qu'on dit et c'est vrai, hein. Et notamment les relations homosexuelles, quand il y a un conflit pour la nourriture, par exemple, entre deux femelles, imaginons, au lieu que l'agression monte et qu'il y ait une vraie confrontation physique, souvent il y a un rapport homosexuel au lieu d'une agression.
Mais c'est un bon exemple finalement à suivre.
Bah oui,
pourquoi pas,
n'est-ce pas ?
Ça serait un peu bizarre.
Faire l'amour et pas la guerre.
En entreprise de tout régler comme ça, mais enfin pourquoi pas. Est-ce que ça sert aussi à s'initier au sexe ?
Alors ça, c'est une des hypothèses qui est avancée par certains scientifiques, mais qui, à mon avis, ne tient pas beaucoup la route. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui essayent d'expliquer l'homosexualité animale en disant, bon, par exemple, c'est juste une période où ils essayent juste un peu de s'initier et puis ils vont revenir à une sexualité dite normale qui serait la sexualité hétérosexuelle. Et en réalité, on va l'observer chez plein d'espèces, chez des animaux adolescents, mais aussi chez les adultes. Donc si ça n'était qu'une initiation, les adultes ne la pratiqueraient plus.
Alors, il y a forcément certains de nos auditeurs qui sont un peu choqués par ce qu'on dit. Et on le comprend. Et on va essayer de lutter contre cette idée. Pourquoi, justement, il y a ce tabou? Pourquoi le fait de dire que les animaux, et on peut mettre les êtres humains dedans, évidemment, hein, utilisent le sexe pour autre chose que la reproduction, pourquoi ça choque? Il y a un peu de religion derrière,
voilà, j'imagine. Voilà, il y a la culture, il y a les préjugés d'ordre culturel, sociaux et religieux aussi beaucoup, hein, qui restent ancrés en nous, malgré le fait que la religion est de moins en moins de prise, en tout cas la religion chrétienne dans nos sociétés. Et j'ai oublié votre question.
Pourquoi il y a ce tabou?
Ça bouleverse la théorie de l'évolution,
voilà,
notamment. Attendez, vous savez quoi? On va le développer et en parler dans un instant sur RTL.
D'accord.
On est fait pour s'entendre. Flavie Flamand sur RTL.
Tendance, comportement, expérience, on est fait pour s'entendre. Un magazine qui vous ressemble du lundi au vendredi de 15h à 16h en direct sur RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
Les animaux, homo, c'est le thème de notre curiosité sur RTL et le titre du livre de notre invité, l'écrivaine et éthologue Fleur d'Auget. On parlait des tabous, du fait que ce qu'on est en train de dire en ce moment, ça choque certainement une partie de nos auditeurs. Et ça peut être lié avec la théorie de l'évolution. Pourquoi, Fleur d'Auget?
Oui, mais... en réalité, il y a un point sur lequel la religion et la science se rejoignent, ou se rejoignaient en tout cas, espérons que ça va changer, c'est le fait que la sexualité serait destinée uniquement à la reproduction. Mmh. Alors qu'en réalité, la théorie de l'évolution va devoir évoluer, et elle est en train d'ailleurs de changer vis-à-vis de ça, puisqu'on se rend compte que le plaisir a aussi une grande part... évidemment, chez les humains, on sait que la sexualité, c'est aussi pour le plaisir, mais chez les animaux également.
Ça, on le découvre, le plaisir chez les animaux. C'est-à-dire que les animaux qui font l'amour ont du plaisir. Les insectes, les éléphants, les autruches.
Même les insectes, parce que vous voyez, par exemple, le plaisir des insectes, on peut se dire, non mais qu'est-ce qu'on est en train de raconter là? Il y a des structures cérébrales qui sont liées au plaisir, qui ont été identifiées chez les insectes notamment. Et puis, c'est pas si étonnant que ça, puisque le plaisir, la douleur, c'est quelque chose de fondamental pour la pérennisation de la vie. Si on n'a pas de plaisir en mangeant, on va pas manger, on va pas survivre. Si on n'a pas de douleur quand on se fait mordre, on va pas fuir la douleur, on va pas survivre également.
Donc, on vit parce qu'on a du plaisir.
Oui.
Et donc, c'est important, ce plaisir.
D'ailleurs, le plaisir, il est premier par rapport à la sexualité. C'est pas la reproduction qui vient d'abord, c'est le plaisir qui est d'abord là. Les animaux, ils font qu'ils soient hétéros ou homosexuels, ils ont des relations sexuelles parce que ça leur fait du bien. Et puis, incidemment, ils se reproduisent. Mais en réalité, c'est le plaisir qui est là d'abord.
Bon, alors on a parlé des bonobos, mais qui était peut-être l'exemple le plus évident, le plus connu, ces grands singes. Alors, il y a beaucoup de surprises à venir là dans la curiosité, grâce à vous, Fleur d'Auget. Par exemple, les autruches, femelles et mâles peuvent être homosexuels chez
les
autruches?
Alors, potentiellement, oui. Les recherches qui ont été faites, c'était surtout sur les autruches mâles.
Ouais.
D'ailleurs, chez eux, c'est assez étonnant. On n'a pas encore observé d'accouplement, vraiment, alors que chez plein d'autres oiseaux, il y a vraiment des vrais accouplements. Mmh. Mais chez les autruches, il y a une parade nuptiale vraiment très particulière qui ne se fait qu'entre mâles. Donc, quand un mâle veut séduire une femelle, il fait une parade nuptiale, mais ce n'est pas la même quand il va essayer de séduire un autre mâle.
Pourquoi il ne raconte pas la même chose dans sa parade nuptiale?
Voilà.
Qu'est-ce qu'il veut prouver, par exemple, à la femelle quand il fait une parade?
Souvent, il veut lui prouver qu'il va bien s'occuper des petits, par exemple. Donc, il va faire des chants aussi pour montrer qu'il est en bonne santé. Un beau chant, ça dénote un mâle en bonne santé. Parce que chez l'autruche, c'est le père qui s'occupe des petits. La femelle, elle dépose ses œufs et puis elle va vivre d'autres aventures amoureuses. Tandis que le mâle va s'occuper des œufs, couver les œufs et s'occuper des petits.
Et la parade homosexuelle, alors, Fleur d'Auget, elle ressemble à quoi?
Elle est assez
chez
impressionnante, en plus, chez les autruches, qui sont déjà des animaux assez impressionnants eux-mêmes. Il y a une course, en fait, à 70-80 km/h. Donc, quand il y a un mâle à repérer, un autre mâle qui l'intéresse, il va courir à fond vers lui et s'arrêter vraiment pile devant pour l'impressionner. Et puis après, il va faire toute une série de pirouettes, des danses particulières.
Mais s'il n'y a pas d'accouplement, à quoi ça sert ? Il y a des jeux quand même à caractère sexuel ?
Non, c'est un peu étonnant chez cette espèce-là. Ça serait bien de creuser le sujet et d'aller les observer un petit peu mieux parce qu'on n'a pas encore assez de recherches sur ces sujets-là.
On voit que c'est vraiment une matière en cours d'apprentissage d'une certaine façon.
Autre révélation, autre observation, celle des dauphins roses d'Amazon. C'est une espèce assez fascinante. Pourquoi, Fleur de Jet ?
Le dauphin rose d'Amazonie, comme beaucoup de cétacés, il y a beaucoup d'homosexualité chez les dauphins, chez les baleines aussi. On l'appelle le boto aussi, ce dauphin-là, qui est très en danger. Il n'y en a plus beaucoup dans les eaux douces de l'Amazone. Il y a beaucoup de relations homosexuelles entre mâles chez cette espèce-là. Et puis surtout, comme chez les autres dauphins, il y a une espèce de Kama Sutra assez intéressant, puisqu'ils ont anatomiquement, ils sont... leur anatomie est propice à plein de caresses et à plein de positions différentes.
Pourquoi ? Est-ce qu'ils ont plusieurs sexes, plusieurs orifices ? C'est comment ?
Alors, en fait, le mâle, son sexe, il est rangé à l'intérieur du ventre. Donc, il y a comme une sorte de vagin. Et donc, les mâles peuvent se pénétrer dans cette fente ventrale, comme s'ils pénétraient une femelle. Ils le font, d'ailleurs. Et il y a aussi des pénétrations dans l'évent, donc c'est le trou qui leur sert à respirer.
Au-dessus de la tête, là.
Ouais. Et des caresses aussi, avec les nageoires, du sexe oral aussi.
Il y a de la tendresse aussi, c'est ce que vous racontez dans votre livre, de la tendresse entre les dauphins.
Oui, bien sûr.
Mâles et les dauphins femelles.
Ouais. Il y a beaucoup de caresses, de bisous, et chez plein d'autres animaux également.
Il y a même des couples de dauphins qui vont vivre ensemble.
Oui.
De couples mâles, par exemple.
Oui. Alors ça, c'est chez le grand dauphin, le dauphin gris, très commun, que tout le monde connaît. Les mâles se mettent en couple dès l'adolescence, et ça dure toute la vie en plus. Et donc, ils ont des relations homosexuelles et ils forment aussi des alliances pour conquérir des femelles. Donc, on voit que leur alliance homosexuelle va aussi les aider à mieux se reproduire.
L'histoire naturelle de l'homosexualité, c'est ce que l'on vous propose. Et ce livre est à lire chez Albin Michel. Tiens, on va observer des pingouins, des macaques, des cygnes noirs. La découverte continue sur RTL.
Les éthologues ont remarqué des comportements homosexuels dans la nature.
La curiosité est un vilain défaut.
Ces comportements homosexuels ont été étudiés chez plus de 1500 espèces, des singes en passant par les mouches.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Chez les insectes, l'homosexualité est encore plus répandue.
Et au fait, t'es un gars ou une fille ?
Oh mais arrête, on s'en fout, on continue !
Vous l'aurez compris, dans la nature, l'homosexualité est assez banale.
On est bien entre curieux. Sur RTL.
Extrait de l'excellente série d'animation Tu mourras moins bête, Animaux gays, diffusée sur RTL avec la voix de François Morel. L'homosexualité.
Et avec un YMCA en fond sonore, c'est bien aussi.
Franchement,
Sébastien Dudouis, bien joué. Fait les grands signes.
L'homosexualité dans la nature et dans la curiosité. Nous sommes avec l'éthologue Fleur Dauger. On va se passionner maintenant pour les macaques et notamment les femelles macaques. Quel comportement ont-elles ? Quelle sexualité pratiquent-elles ?
Alors déjà, les macaques, il y a plein d'espèces différentes. Il y en a, je ne sais pas combien, mais il y en a une grande quantité. Les femelles, notamment, elles ont beaucoup de rapports homosexuels. Donc elles se montent généralement. Il y en a une qui monte sur le dos de l'autre et qui va frotter son clitoris sur son dos. Ce qui est bien connu maintenant aussi, c'est l'orgasme chez les macaques et puis chez plein d'autres espèces également.
Parce qu'il est sonore ? Mesuré comment, en fait ?
Les mimiques, en fait, qui vont être repérées aussi bien chez les mâles que chez les femelles, qui sont les mêmes. Donc il y a un plissement des yeux, la bouche en haut, et puis une espèce de tremblement aussi, comme ça, qui fait tout à fait penser à un orgasme. Et puis il y a d'autres études plus précises qui ont été faites, dont je ne me souviens plus, je ne sais plus les détails.
Tout va bien, ce n'est pas grave, vous nous dites et déjà beaucoup, beaucoup de choses, on apprend beaucoup de choses grâce à vous, Fleur Dauger. Est-ce que dans la nature, chez les animaux dont vous nous parlez, il y a des comportements exclusivement homosexuels ? Ou alors, est-ce que ces animaux pratiquent les deux, l'homosexualité et l'hétérosexualité ?
En réalité, c'est plutôt la bisexualité qui est répandue. C'est très rare de trouver des animaux purement homosexuels. Ça existe quand même. Il y a une femelle macaque japonaise dans un zoo aux États-Unis, je crois, si je me souviens bien, qui a toujours refusé les mâles, alors qu'elle était dans un groupe qui était composé de mâles, de femelles, et elle a passé toute sa vie à n'avoir de rapport sexuel qu'avec des femelles. Donc ça peut exister également, les deux sont possibles. Mais de manière générale, voilà, il y a homosexualité et hétérosexualité.
Les animaux sont sexuellement plus libres que nous, Fleur de Gé ?
Oui, je pense qu'on peut le dire.
Tiens, par exemple, vous donnez un exemple, celui des huîtriers pies. Alors ce sont des animaux, des oiseaux marins.
Oui.
Qu'est-ce qu'on remarque dans leur comportement sexuel, dans leur répertoire sexuel?
Chez les huîtriers pies, il y a des ménages à trois, bisexuels, donc, qui vont être composés par exemple de deux mâles, une femelle, deux femelles, un mâle. Ça peut être même des ménages à quatre, où ils vont élever des petits tous ensemble. Donc souvent, s'il y a deux femelles qui pondent, il y a beaucoup d'œufs à s'occuper. Et ça peut aider à élever un petit peu plus de petits, de s'y mettre à plus nombreux.
Alors il y a de la liberté, mais est-ce qu'il y a de l'ostracisme à l'inverse? Est-ce qu'il y a des animaux homo qui sont rejetés par le groupe?
Non, en tout cas, j'ai pas...
Ça n'a pas été observé, en tout cas.
Voilà, en tout cas, j'ai pas trouvé ça. Et je pense qu'on entend souvent que l'homosexualité serait contre nature. Bon, là, on voit bien que c'est pas vrai. Et je pense qu'on pourrait dire que c'est plutôt l'homophobie qui serait contre nature, parce que les animaux, eux, n'ont pas l'air de la connaître, en tout cas.
Et dans l'infiniment petit, tiens, les fourmis, les mouches, sont-elles homo? Réponse tout de suite sur RTL. L'homosexualité n'est pas contre nature, elle est dans la nature, c'est ce qu'on apprend avec notre invitée, l'éthologue Fleur d'Auger. On a parlé des autruches, on a parlé des dauphins, on a parlé de plein d'espèces assez grosses. Et on se demande, alors les insectes, les fourmis et les mouches par exemple, est-ce qu'il y a des mouches et des fourmis homosexuelles?
Alors, chez les insectes, c'est aussi très très courant. De toute façon, on retrouve de l'homosexualité chez vraiment tous les groupes d'animaux, hein, donc aussi les poissons, les reptiles.
Espèces, ouais.
Exactement. Et donc chez les insectes, ça a été étudié notamment au 19e siècle, au tout début, chez les hannetons. Donc les entomologistes de l'époque étaient très étonnés de découvrir ça, surtout à cette époque où vraiment l'homosexualité était encore plus tabou qu'aujourd'hui. Et on parlait à cette époque-là de pédérastie, justement, et on se demandait est-ce que c'est un problème, une pathologie, parce que souvent l'homosexualité a été considérée comme ça, et ça continue dans le monde scientifique à être considérée comme ça, une anomalie, une pathologie, une aberration.
Donc on se demandait si les hannetons n'étaient pas malades, c'est ça?
Voilà, exactement. Ouais. Et il y avait un chercheur dont je parle, qui s'appelle Gadot de Kerville, dont je parle dans le livre, qui a vraiment essayé de secouer un petit peu tout ça, et qui disait, mais apparemment les hannetons ont aussi une pédérastie par goût. Il appelait ça comme ça, puisqu'ils se rendaient compte que dans des groupes justement où il y avait autant de mâles que de femelles, par exemple, il y avait certains mâles qui choisissaient réellement d'aller avec des mâles, qu'ils ne le faisaient pas comme un second choix, parce qu'on pensait aussi beaucoup ça, que l'homosexualité serait un second choix. Si on n'a pas accès aux femelles, on va
par
se rabattre sur un mâle, par exemple. Voilà.
Oui, mais en revanche, moi, ce que je retiens quand même, c'est que c'est de bisexualité qu'on doit parler quand on parle de toutes ces espèces.
Oui, en réalité, oui. Après, moi, je me suis vraiment centrée sur les comportements homosexuels, mais en réalité, effectivement, il y a une bisexualité dans la nature qui est tout à fait normale, qui fait partie des comportements habituels des animaux.
Merci beaucoup. Fleur d'Auger, vous publiez Animaux Homo, histoire naturelle de l'homosexualité. C'est aux éditions Albin Michel. À bientôt.
Vous écoutez RTL.